ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
It's a landmark event that, at the very least, I'm standing up for those who can't be here and for those who deserve these rights.
To be with women, help women, support women, that's really it. It's not for anybody else. It's not for Donald Trump. It's not for men. It's just for girls. It's not here. We're now under a regime that literally wants to physically assault us, and I think there's something to be said about that. That's not okay.
I think he wants to roll back Roe v. Wade and take away women's right to choose and have control over their bodies. I think he wants to defund Planned Parenthood. I think he lives in a world where women are subordinate to men and do what men tell them to do, and I don't agree with any of it.
Came out here with all my friends and we bought our daughters, our teenage daughters, and want them to know that they can stand up for their rights and they have a voice in today's world.
Usted está escuchando
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Sur France Inter. Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Et oui,
bien le bonjour où que vous soyez à travers la planète. Nous sommes en direct de Calico Beach Club, route nationale en Haïti. Cela vous intéresse aujourd'hui, une émission très spéciale, Jazzy Jazzy. Popourri Show, 32 ans déjà, vous donne rendez-vous sur www.cut.fm. Émission réalisée aujourd'hui en partenariat avec Radio France Internationale Culture, TV5 Monde, France 24, France Inter, Le Mofif, Info Citoyen en Haïti, l'ingénieur du son DJ Deveray, Sloan Ballant, nouveau citoyen canadien, toutes nos félicitations, et Iceland Air. And the winner is Samuel. Félicitations et bon voyage en Islande. Allez-y, allez-y. Et un bonjour spécial à Armand qui est avec nous en studio, Carole, Jean-Yves, Ahmed, Samoura et nos invités qui nous attendent à Port-au-Prince, Obed, Lamy et Dienaba Démé du Mofif, me dit-on, mais c'est pas confirmé encore, qui nous parlera d'un livre blanc du Mofif. Merci encore d'avoir été si nombreux à nous écrire. Des milliers de fois merci pour vos commentaires et vos questions, hein, surtout sur le livre blanc de Mofif. C'est dommage que Faiza ne soit pas là. Elle est la présidente sortante du Mofif, mais nous tenterons de répondre à vos questions. Des questions d'ailleurs très pertinentes de la part des femmes franco-ontariennes, nouvellement arrivées, des réfugiés francophones, des femmes d'affaires. Beaucoup, beaucoup de questions dès 12h30 aujourd'hui. Le menu en ce dimanche 20 janvier 2019. Justement, le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones passe la vitesse en vitesse supérieure en présentant son premier livre blanc à la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Ça s'est passé la semaine dernière. Est-ce qu'on doit croire à la ministre? Quels sont les enjeux? Quelle est la réalité et les enjeux entourant l'intersectionnalité dans le Mofif? Donc, Madame Démé, peut-être, sera des nôtres vers 12h30. Le ciel sous nos pas, un premier roman de Leïla Bachène, paru chez Albin Michel. Leïla, 35 ans, franco-marocaine, vit en France depuis 10 ans. Et elle s'occupe de Zitoun, une association qu'elle a fondée au Maroc, qui se consacre à l'alphabétisation des femmes. Et elle sera notre invitée aujourd'hui. Elle est récipiendaire du prix de la Nouvelle de Tanger, décerné par l'Institut français et la Bibliothèque nationale du Maroc. Collaboration spéciale aujourd'hui, Jean-François Cadet du magazine Vous m'en direz des nouvelles à RFI. En direct d'Haïti avec le Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pap Jazz, jusqu'au 26 janvier. Les yeux du monde braqués sur Haïti, plus de 350 millions d'auditeurs sont touchés par ce festival international. L'un des incontournables rendez-vous, nous dit-on, ceux qui désirent, ce festival qui désire projeter une autre image de Haïti. Obed Lamy, où es-tu? Il est notre correspondant à Port-au-Prince, éditeur en chef de Info Citoyen. Et le gouvernement fédéral annonce une petite manne, hein, de dollars, il faut bien le dire. 1,9 million de dollars pour permettre le maintien du projet universitaire de l'Ontario français. Pourquoi un an? Voilà tant de questions. 2019, nouvelle année, mais malheureusement certaines mauvaises manières chez certains employeurs ne changeront jamais. Amadou Gaye croyait arriver dans un paradis terrestre en immigrant du Sénégal au Canada, mais a plutôt vécu l'enfer chez son employeur. Un employeur condamné d'ailleurs pour des propos sur les nègres. On en parle. Pourquoi les Airlis dans le collimateur du gouvernement de Doug Ford? On en parle. Hommage au chanteur mauricien Daniel Phillips sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux à rendre hommage à ce grand artiste mauricien qui vivait à l'île de la Réunion. Et notre émission lui rend hommage dans la deuxième heure. Demandez le programme, demandez le programme. La session de la fièvre du vendredi soir au ROM, Musée Royal de l'Ontario, se poursuit et une paire de billets aux auditeurs pour la soirée du vendredi 25 janvier. Et le 28, nous avons un cocktail ici, une conférence exceptionnelle. Je suis canadien d'origine japonaise, réflexion sur un monde déchiré, une invitation très très spéciale du Musée Royal de l'Ontario. Il y aura un cocktail après la conférence. C'est prévu pour le 31 janvier. au Musée royal de l'Ontario à partir de 18h30. Une paire de billets exceptionnellement à un auditeur, une auditrice qui nous envoie un message à popourri@cut.fm. Appel à partenariat chaque année en février à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Les Canadiens sont conviés à prendre part aux célébrations, aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Et veuillez nous répondre immédiatement. Ou encore, si cela vous intéresse, à participer à notre célébration du mois de la francophonie, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Le mois de mars, c'est tous les francophones des Amériques et du monde entier qui célèbrent la langue française dans tous ses états. Popourri Show, 32 ans déjà, toute la diversité du monde sur notre fréquence. C'est le sable chaud, le sable chaud. Oui. Il fait très chaud en Haïti, hein? 40 degrés à l'ombre. Où êtes-vous en ce moment? Les buzz de nos médias partenaires, Royaume-Uni. Order! Order! Celui qui a eu des milliers de suiveurs sur le Twitter cette semaine, c'est John Bercow, Speaker, président tonitruant de la Chambre des communes en Angleterre, bien sûr, et c'est lui qui s'est imposé en arbitre, en quelque sorte, du Brexit, le Brexit qui divise toujours les Anglais. Et en France, mardi s'ouvrait le grand débat. L'enjeu est crucial pour Emmanuel Macron, qui compte relancer son quinquennat et reprendre l'initiative après 2 mois de crise et d'effondrement dans les sondages. Et on vous donne quelques idées comment participer à ce grand débat national. Et hier samedi, les Gilets jaunes, acte 10, à chaque ville sa manif, de Bordeaux à Toulouse en passant par Paris, des milliers de Gilets jaunes manifestaient samedi pour leur 10e journée d'action, une mobilisation en léger recul et sans heurts majeurs. Le ministère de l'Intérieur a estimé dans la soirée à 84 000 le nombre de manifestants dans toute la France, un nombre équivalent à celui de la semaine précédente. Le Centre francophone de Toronto a inauguré un point de service sur la rue Ontario à Mississauga sur cette semaine. Et oui, cette nouvelle antenne du Centre francophone de Toronto permettra d'offrir à la population francophone de la région de Peel-Harton une gamme de services socio-communautaires, de l'aide à l'établissement des nouveaux arrivants et de l'aide juridique, selon le communiqué émis par le centre. Le gouvernement de l'Ontario réduit le fardeau des droits de scolarité de 10% pour les étudiantes et étudiants. Et nous avons reçu un message ce matin de Madame la ministre Mulroney, qui nous écoute en ce moment. Bonjour Madame la ministre. Et oui, la première réduction des droits de la scolarité à l'échelle de la province rendra les études au collège et à l'université plus abordables et plus accessibles pour les étudiantes et étudiants ontariens et leurs familles, tout en donnant aux étudiants le pouvoir de choisir les frais dont ils souhaitaient s'acquitter. Dimanche soir dernier, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 1,9 million de dollars à l'équipe de mise en œuvre de l'Université de l'Ontario français. Des fonds qui permettront à l'établissement de subsister pendant un an et le limiteront à se consacrer uniquement au développement du carrefour francophone et qui sont donc loin d'assurer son avenir. Ce qu'on va réussir à faire dans la prochaine année, c'est de mettre le projet sur le respirateur artificielle, selon notre collègue et correspondante Stéphanie Chouinard, professeure adjointe en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada à Kingston. Alors que la communauté franco-ontarienne et les défenseurs de cette nouvelle université se réjouissent du sursis accordé par le ministère canadien du patrimoine, du tourisme et de la francophonie, les réponses du gouvernement provincial lundi ne permettent pas l'optimisme, selon elle. Elle dit, et je cite, « C'est certain que 1,9 million de dollars, on ne sauvera pas le projet avec ce montant-là quand on sait que le budget de démarrage qui avait été promis était de l'ordre de 80 millions de dollars. » Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada
à Kingston. On tentera de la voir à notre micro la semaine prochaine. Est-ce que notre partenaire Reflet Salvéo est en danger? Les 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé et Airlis de la province pourraient bientôt être dissous et leurs responsabilités redistribuées selon des informations obtenues par Radio-Canada. Des sources à Queen's Park ainsi qu'au ministère de la Santé et des Soins de longue durée affirment en effet que le gouvernement étudie la possibilité de remplacer les 14 Airlis de la province par 5 organismes régionaux et de transférer, je dis bien de transférer, certaines de leurs responsabilités aux hôpitaux, aux centres de soins de longue durée, ainsi qu'aux accompagnants à domicile. Créés en 2007 sous le gouvernement de Dalton McGuinty, gouvernement libéral, les Airlis gèrent les soins de santé de longue durée d'une région déterminée. Cette année, les 14 Airlis ont redistribué 28,5 milliards de dollars aux hôpitaux, centres de soins de longue durée et autres établissements du secteur de la santé. Quel impact pour les malades francophones dans les dédales des soins de santé en Ontario? J'aimerais bien qu'on en parle, si cela vous intéresse. De hashtag ONFR, plusieurs parents anglophones à travers le Canada décident d'inscrire leurs enfants dans une école de langue française. Pourquoi? Un choix qu'ils assument malgré les défis rencontrés. Hashtag ONFR a interrogé plusieurs d'entre eux sur le sujet. À lire absolument. Et je vous rappelle que de réfugiés à policiers à Toronto, parce qu'il y a bien une très bonne nouvelle cette année qu'on a lu dans les réseaux sociaux, le rêve d'Alain Akarasa, qui est passé de la guerre civile au centre de formation de la police de Toronto. Très bonne nouvelle, il souhaite faire un bon usage des moments difficiles qu'il a vécu pour inspirer et venir en aide aux membres de la communauté qu'il rencontrera bientôt dans les rues de la grande région de Toronto. Je pense que c'est un atout pour la police de Toronto. Quand ils font des bonnes choses, il faut bien le reconnaître. Être réfugié au Canada a motivé ce jeune homme, Alain Akarasa, à devenir policier. Bravo. Dans 2 semaines, le rêve de cet homme de 25 ans deviendra réalité. Par contre, si le rêve d'Alain Akarasa devient réalité, tel n'est pas le cas pour Amadou Gaye. Il avait quitté le Sénégal pas tellement longtemps, hein, il y avait quelques années, et en pensant se diriger vers le seul paradis terrestre, le paradis au monde, le Canada. Et oui, Amadou croyait arriver dans un paradis terrestre en émigrant du Sénégal au Canada, mais a plutôt vécu l'enfer chez son employeur. Iron Mountain. Des commentaires racistes, jour après jour, au point de le rendre malade. Dans une décision exceptionnelle, la justice vient de reconnaître qu'il a été victime d'un accident de travail. Après des mois à encaisser des insultes racistes, jour après jour au travail, Amadou Gaye ne se sentait plus lui-même. Les maux de tête l'assaillaient, les palpitations cardiaques se multipliaient et l'insomnie gangrenait sa vie. Quand le diagnostic est tombé, Amadou a pu mettre des noms sur son état, stress post-traumatique et troubles d'adaptation. Il était incapable de retrouver au travail. Il y a quelques semaines, l'homme est devenu l'un des rares travailleurs québécois à avoir fait reconnaître par la justice que le racisme au travail a causé une lésion professionnelle, l'équivalent d'un accident de travail. Sa santé psychologique et sa dignité ont été atteintes, a conclu la juge administrative Annie Baudin le 13 décembre dernier. La décision et l'indemnisation qui vient avec elle est arrivée comme un soulagement pour Amadou. Le racisme est une réelle crise de santé publique au Canada, madame, monsieur. Et ce n'est pas moi qui le dis. Selon Wanda Thomas-Bernard, travailleuse sociale et professeure d'université néo-écossaise, nommée au Sénat il y a 2 ans environ, madame Bernard a longuement travaillé auprès de la population afro-canadienne marginalisée, notamment dans sa province d'origine. Et en 2010, elle a signé avec d'autres professeurs un ouvrage scientifique portant spécifiquement sur les liens entre racisme et santé publique. Du 19 au 26 à janvier 2019, Popourichaud en partenariat avec son correspondant Obed Lamy à Port-au-Prince est fier de vous présenter la 13e édition Pop Jazz, le festival le plus jazzy de Port-au-Prince. Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir en direct de Port-au-Prince Obed Lamy, qui est dans le feu de la chaleur de Port-au-Prince, comparable à nos amis qui sont sur les plages glaciales de Toronto. Et Obed, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Popourichaud.
Kylian Ouvé.
Alors, c'est un plaisir pour nous rencontrer, nous. Et jeudi dimanche là, son rendez-vous définitivement que Haïti cassé avec compatriotes Lio qui Toronto ou bien sous tout l'autre pays dans la planète là pour parler nous de qui ça cap fait dans pays là et pour partager chalet qui gagne dans pays là avec diaspora noire qui dans effectivement prédit Toronto.
Allez-y et vous allez nous parler justement de cette 13e édition de Pop Jazz, le festival le plus jazzy du Port-au-Prince, d'ailleurs qui s'annonce avec beaucoup de grandes pointures. Hein. On parle des artistes du Québec, mais aussi de l'Europe, même d'Israël, de l'Espagne. Il faut le faire, hein, et ça fait 13 ans qu'on projette une autre image, une image positive, de cette Haïti qui est riche en couleurs, mais riche en musique, en culture, en poésie.
Et définitivement, vous avez tout dit, mais avant de parler du Festival international de jazz de Port-au-Prince, on va revenir sur certains événements qui ont marqué l'actualité d'Haïti. Et je commence avec l'ouverture de l'année législative. Et c'est une obligation de la Constitution à laquelle le pays ne peut se soustraire. C'est tous les lundis, les deuxièmes lundis de janvier, le Parlement doit procéder à l'ouverture de l'année législative par une séance en Assemblée nationale qui consacre d'abord le retour des députés des vacances, mais aussi le début des travaux législatifs, élaboration de lois et vote de lois et aussi contrôle de l'action du gouvernement. La séance de ce lundi 14 janvier a évidemment réuni des parlementaires mais aussi des officiels, par exemple le président de la République, le premier ministre et ses ministres, des membres du corps diplomatique, des membres de partis politiques et de la société civile. Et au cours de cette séance, on a écouté à tour de rôle beaucoup de discours qui dressent des bilans, mais souvent qui contrastent avec le quotidien des citoyens. Et je vous parle maintenant de cette rareté de gaz qui persiste encore dans le pays cette semaine, au plus grand désarroi des chauffeurs et des passagers. De longues files de véhicules qui font la queue dans les stations d'essence créent des embouteillages monstres, mais aussi cette semaine, on a observé comme conséquence de cette rareté de gaz un nouveau problème, c'est une panne d'électricité qui s'abat sur beaucoup de quartiers à Port-au-Prince qui n'ont pas revu des lumières depuis plus de 3 jours. Et ce problème a exaspéré les citoyens au point que vendredi, des écoliers ont hué le président qui était en déplacement officiel et en l'interpellant pour lui dire, nous pas gain courant. Et à présent, on vient au Festival international de jazz de Port-au-Prince.
D'ailleurs, nous entendons une petite musique en arrière-plan parce que nous avons des antennes qui étaient sur place hier soir. Allez-y. Et oui, ils sont très heureux, les Français qui sont sur place. Il y a plusieurs radios partenaires, hein, TV5 Monde, France Inter, Radio France, Radio France Internationale. Et donc, on est chanceux d'avoir des amis sur place. Et donc, est-ce que vous avez eu l'occasion d'être là pour l'ouverture ?
Non, j'étais à un autre rendez-vous hier soir, à une célébration d'anniversaire d'un média partenaire. Mm-hmm. Et j'ai raté l'ouverture du festival de jazz, mais j'ai été très informé de tout ce qui se passe et je serai à des rendez-vous de jazz de cette semaine. Effectivement, le Festival international de jazz de Port-au-Prince, c'est l'un des rendez-vous de tous les janvier en Haïti. Cela fait 13 ans. Cette année, on a ouvert officiellement hier soir la 13e édition. Ce festival s'est réuni les amants de du jazz d'abord, mais aussi de la bonne musique, parce que certes, c'est un festival qui fait la part belle à la musique jazz, mais aussi consacre dans sa programmation des activités qui offrent la place à des artistes locaux. Par exemple, il y a Fatima, il y a Claude Carré qui ne chante. Claude Carré, c'est un musicien de jazz, mais Fatima et B.I.C. ne chantent pas forcément de jazz. C'est une façon de mettre de la diversité et de mettre beaucoup plus de couleurs dans ce festival qui se veut international. Mais c'est effectivement le cas parce que le festival réunit de jazzmen de renom venant des quatre coins du monde. France Musique, d'ailleurs, a présenté les têtes d'affiche. On parle de Terence Blanchard, de Cécile Mac-Laurent-Salvin, qui sont des récipiendaires de Grammy. Il y a aussi le gagnant de victoire de jazz, qui est Émile Parisien. Il y a aussi des jazzmen qui sont de l'Espagne et de plusieurs autres pays d'Europe. Il faut souligner aussi que le Festival international de jazz de Port-au-Prince n'est pas que des concerts, mais c'est aussi des ateliers, des masterclass et aussi des activités touristiques, parce que c'est une occasion pour Haïti de se projeter une autre image à travers le monde, non seulement par rapport et aux lieux qui sont à découvrir, mais aussi par rapport à des journalistes internationaux qui sont sur place. C'est l'occasion de vraiment projeter une autre image d'Haïti. Et en chiffres, le Festival international de jazz, cette 13e édition, c'est 8 jours de jazz du 19 au 26 janvier. C'est aussi 15 pays invités de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de la Caraïbe, et 42 concerts qui sont distribués ou bien qui sont organisés sur environ 18 sites à Port-au-Prince, mais aussi dans certaines villes de province. Et ça réunit au total près de 2000 festivaliers.
Ça fait beaucoup. Alors, et je rappelle encore une fois, c'est très important d'insister sur le côté culturel, touristique. Et tout ça est fait cette année en harmonie avec l'écologie, parce qu'on veut vraiment...
Justement.
Ça, c'est très intéressant et très innovateur.
Oui, justement, parce qu'il faut dire que c'est un festival qui s'innove année après année. Et dans un premier temps, c'était consacré qu'à la musique. Après, on a vu le côté touristique. Et cette année, c'est un bon coup pour les organisateurs de mettre en avant cet aspect écologique, parce qu'ils offrent des sacs recyclables, ou du moins, c'est pour empêcher vraiment l'utilisation des sachets en plastique. Mm-hmm. Donc, et on va dire que c'est un festival multifacette, donc qui sert autant qu'à Haïti, mais aussi autant qu'au monde, parce qu'on prône vraiment des actions écologiques.
Mais alors, écoutez, nous avons monté un petit topo ici qu'on va passer tout au long de l'émission, mais aussi on est allé chercher quelques extraits des artistes qui seront sur scène à Port-au-Prince dans le cadre de Pub Jazz. Donc, surprise, surprise, dans la deuxième heure à partir de midi, madame, monsieur, et je vous rappelle encore une fois, Pub Jazz 2019. À la découverte des artistes des États-Unis, du Canada et notamment du Québec, de la France, des Antilles, de la Belgique, du Mexique, du Chili, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Suisse et de sa diaspora haïtienne, bien sûr. Et tout ça est organisé par la Fondation Haïti Jazz avec le soutien des ministères de la Culture et du Tourisme d'Haïti, ainsi que l'aide et le partenariat des principales ambassades présentes à Haïti et d'institutions privées et publiques. Et aussi, il y a de la bonne cuisine, il y a le rhum haïtien, n'est-ce pas, qu'on pourra déguster.
Le fameux Baroncou, justement.
Oui, et c'est un moment spécial, je pense, pour Haïti, surtout avec tout ce qui est en train de se passer dans ce pays. Mais tenez-nous au courant.
Oui, justement, et la semaine prochaine, je vous promets quelques interviews avec les artistes qui sont en déplacement pour ce festival, pour leur demander leurs impressions d'Haïti, leur demander leur motivation de vraiment venir faire un festival de jazz en Haïti. Je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs qui sont de partout.
Obed Lamy, merci en pile.
Merci.
Et je vous invite maintenant à retourner sur la plage, au sable chaud, oui, de Haïti.
Justement.
À très bientôt.
Rendez-vous quand c'est pour l'autre dimanche.
Au revoir.
CIUT 89.5 Toronto.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Et pour toujours, ce sont les grands succès que votre disque jockey a sélectionné pour vous faire danser. Prêt?
Nous sommes prêts
pour un voyage dans le temps. La piste est à vous.
Plus rien ne m'étonne. Où sont les talents 2019. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Eh oui, tout au long de l'année, madame, monsieur, je vous invite à participer à nos jeux concours et courez la chance de gagner des billets de voyage, billets de cinéma ou des billets de nos bistrots partenaires. Plus rien ne m'étonne. Talent 19-20, une nouvelle génération de talents qui imaginent, qui créent, qui inspirent, qui ne s'arrêtent jamais. Avez-vous déjà créé quelque chose de merveilleux que vous n'avez pas osé partager? Une nouvelle émission pour la saison 2019-2020. Cette nouvelle initiative est réalisée en partenariat avec RFI Musique, le magazine Longueur d'onde, Cyper Productions, la maison d'édition Prise de Parole, l'Organisation internationale de la francophonie, la PCM, la SACEM et Ubiz News. Un rendez-vous à ne pas rater. Envoyez-nous vos messages ou encore les noms des nouveaux talents, des talents cachés, où que vous soyez à travers la planète, tout au long de l'année 2019-2020 à popourri@cut.fm. Plus rien ne m'étonne, talent 19-20, une nouvelle génération de talents.
Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà.
toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CUT FM, Popourichaud. Et
RFI, toute la diversité du monde.
Le ciel sous nos pas. Premier roman de Leïla Bachen, paru chez Albin Michel. Leïla Bachen a 35 ans, franco-marocaine, vit en France depuis 10 ans. Après avoir travaillé dans la communication, elle s'occupe désormais de Zitoun, une association qu'elle a fondée au Maroc, qui se consacre à l'alphabétisation des femmes. Sélectionnée par Hubert Haddad, elle a publié deux nouvelles dans la revue Apulée, puis des nouvelles dans le magazine littéraire du Maroc. Elle a vécu le prix de la nouvelle de Tanger, décerné par l'Institut français de Tanger et la Bibliothèque nationale du Maroc. Le roman Le ciel sous nos pas de Leïla Bachen est un récit d'apprentissage qui tient de la fable, mais qui est aussi terriblement contemporain. Un roman souvent jubilatoire, écrit dans une langue sensuelle et métissée, tour à tour concrète et poétique. Il met en scène une héroïne décomplexée qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui porte sur le monde un regard pétillant et ironique, pétri d'intelligence et de lucidité sur elle-même, sur les hommes, sur la vie quotidienne dans un Maroc entre tradition et modernité ou dans l'appartement d'une cité, d'une France en proie à la poussée intégriste et au terrorisme. Il est question de religion, celle de Dieu, mais aussi celle de l'argent et du consumérisme. Il est question d'amour, de la place des femmes et de leur rapport aux hommes. Il est surtout question de liberté. Elle était au micro de Jean-François Cadet à RFI. Le ciel sous nos pas, premier roman de Leïla Bachen, paru chez Albin Michel.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Michael Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un récit d'apprentissage qui tient de la fable, mais qui est aussi terriblement contemporain. Un roman souvent jubilatoire, écrit dans une langue sensuelle, tour à tour concrète et poétique. Il met en scène une héroïne décomplexée qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui porte sur le monde un regard pétillant et ironique, pétri d'intelligence et de lucidité sur elle-même, sur les hommes, sur la vie quotidienne, dans un Maroc entre tradition et modernité ou dans l'appartement d'une cité, d'une France en proie à la poussée intégriste ou au terrorisme. Il y est question de religion, celle de Dieu, mais aussi celle de l'argent et du consumérisme. Il y est question d'amour, de la place des femmes et de leur rapport aux hommes. Il y est surtout question de liberté. Le ciel sous nos pas, le premier roman de Leïla Bachen, est paru chez Albin Michel et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Leïla Bachen.
Bonjour Jean-François Cadet.
Votre héroïne, qui est aussi la narratrice, dont on ne connaît pas d'ailleurs hein, le prénom, est une adolescente quand démarre le livre. Elle habite sur une place au nom prédestiné, la place de la Dame Libre.
Oui.
Pourquoi prédestiné ?
Parce que, la Dame Libre a réellement existé. Donc c'est un personnage que j'emprunte à l'histoire. C'était une femme qui a existé donc au XVe siècle et qui était reine de la ville de Tétouan. Donc j'ai voulu lui rendre un petit hommage en appelant cette place-là, place de la Dame Libre. Et puis pour le personnage, comme elle le dit, c'est un présage ou un parrainage.
Oui, parce qu'elle dit « je refuse qu'un homme me domine ou me protège ». Elle le dit assez rapidement dans le livre. Et de fait, elle habite avec deux autres femmes. Il y a sa mère officielle, c'est oui. Ainsi qu'elle l'appelle. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça participe justement du halo de mystère que vous installez très très vite au sein de ce trio. Et puis le troisième personnage, c'est sa sœur Tifa, mais dont elle dit un petit peu plus loin dans le roman qu'elle ne peut pas vraiment dire que c'est sa sœur. Donc on va s'arrêter là, mais c'est quand même très 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 clair. Donc trois femmes qui vivent ensemble,
oui.
dans un village au Maroc, un gros bourg quand même. Au Maroc, une ville, voilà. C'est pas si bien vu que ça quand même.
C'est ça, et ça elle le dit tout de suite. Donc c'est un trio, c'est une famille qui a cette particularité d'être composée exclusivement de femmes, mais qui a instauré ses propres codes, qui arrive à s'affranchir de l'autorité masculine. Voilà. Puisque cette mère officielle, comme elle le dit, elle vaut un homme et demi.
Oui, elle vaut un homme et demi, et puis elle a choisi une façon de vivre, une façon de gagner de l'argent, qui est quand même assez particulière.
Oui, puisqu'elle est ce qu'on appelle une femme mulet, donc une commerçante de la contrebande. Donc il y a cette indépendance financière. Et elle sait aussi travailler une voix masculine, ça elle le dit.
Donc c'est... Et votre héroïne, elle dort sur le balcon de l'appartement. Et du balcon, elle regarde la rue, les gens qui passent en bas sur la place. Alors elle observe beaucoup, elle a vraiment les yeux grands ouverts. Alors elle explique à un certain moment qu'elle accède tout juste à l'âge de la pleine conscience. C'est ce qu'elle dit, c'est sans doute vrai. Mais quand même, elle porte sur le monde un regard qui est quand même très adulte déjà, un regard très, très acéré.
Un regard acéré et à la fois aussi innocent. Je dirais, qui est parce qu'elle le dit parfois qu'elle flotte au-dessus du monde comme un enfant en réalité. Et puis elle a pas beaucoup de préjugés. Les choses telles qu'elles arrivent.
Oui, mais justement, c'est aussi ça qui lui permet d'avoir un regard neuf et peut-être un regard plus lucide que ceux qui se posent peut-être un petit peu trop de questions au début.
Absolument.
Alors elle a le sens de la formule. Vous soignez d'ailleurs beaucoup Leïla Bassaïn, les têtes de chapitre, les premières phrases de chacun des chapitres, et puis les chutes de chapitres. C'est important parce que ça donne tout de suite une image de votre personnage qui est une image très directe. C'est un personnage très entier.
Oui, c'est un personnage très entier. En réalité, elle est très libre et très mature dans sa tête, dans son esprit. Et ça se ressent, j'ai voulu que ça se ressente dans sa langue. En fait, moi, dans ma façon de travailler, quand je l'ai créée tout de suite, elle avait une voix.
Ah, mais quel type de voix alors ?
C'est cette voix-là précise, empreinte de poésie, très lucide. Et voilà.
Ouais, c'est assez terrible parce que c'est une adolescente. Et puis la première phrase du livre, ce qu'on appelle l'incipit, c'est « J'ai l'amour maudit ».
Oui, parce que ça commence à l'adolescence. Et c'est l'âge où on se questionne beaucoup sur l'amour. Donc elle découvre l'amour puisqu'elle va tout de suite tomber amoureuse d'un garçon qui est un vendeur ambulant qui vient garer sa charrette en dessous de son perchoir, de son balcon.
Qu'elle a surnommé garçon caméléon.
C'est bien ça. L'amour est là.
Voilà, l'amour est là, mais bon, comme elle a l'amour maudit, on comprend que ça va pas forcément toujours bien se passer. D'ailleurs, à plusieurs reprises, dès qu'il est question sous votre plume, Leïla Bassaïn, de relations amoureuses, d'attirance, de désir charnel, il y a un mot qui arrive tout de suite, c'est le mot diable.
Eh oui, malheureusement, parce que je pense que nos sociétés ont un problème avec l'amour, ce qui est source de beaucoup de difficultés dans nos sociétés. J'entends par là que, par exemple, au Maroc, l'amour, c'est presque quelque chose de très mauvais.
Voilà. Il faut s'en méfier.
Il faut s'en méfier. C'est la source de beaucoup de risques, de dangers, en particulier pour les filles.
Et ça, on en parle beaucoup à l'école, ce qui peut paraître surprenant, en particulier dans le cours de mathématiques. Alors, il y a le prof de maths qui s'appelle Monsieur Mouskir. Il parle aux étudiants d'amour, il parle beaucoup de sa femme, qu'il adule vraiment plus que tout au monde. Il parle de sexe aussi.
Il parle beaucoup de sexe et c'est voilà, d'une façon très originale. Donc le personnage le dit, elle est consciente du fait que ce n'est pas le lieu approprié pour discuter de ce genre de choses, parce que c'est d'abord un professeur de mathématiques et donc il apporte ça sous sa vision et qui n'est pas vraiment adapté à,
oui, une
à
des... vision qui est très marquée par sa foi, par sa religion, par c'est la ça. Morale c'est par ça. La morale religieuse. Et votre narratrice raconte que la classe elle est divisée en deux, donc d'un côté il y a les fidèles, je crois que c'est le bon mot, de monsieur Mouskir, il y a un petit côté secte quand même. Et puis de l'autre, il y a ceux et celles surtout qui préfèrent le professeur d'art plastique. Et visiblement, elle se range très clairement dans le second groupe. Nous sommes page 26 de votre roman.
Ce que le professeur de mathématiques exprime par de longs discours, le professeur d'art plastique l'exprime par des silences interminables. Les élèves l'appellent Mulhid, un surnom qui signifie athée ou impie. Le professeur le sait et cela n'a pas l'air de l'importuner. Il tient toujours un pinceau entre ses doigts fins, des doigts de femme, légèrement jaunis entre l'index et le majeur. Ses lèvres sont bleues, ses dents jaunes et alignées. Son écharpe bleue nouée sous le menton, il la porte toujours. Il ne parle pas, il peint. Des portraits d'élèves, des toiles abstraites et des paysages urbains. Il a des cheveux crépus qu'il ne s'empresse jamais de couper. Son teint est poussiéreux, presque gris, et ses yeux clairs évoquent une source d'eau. Il affiche une sobriété délibérée et s'habille de jeans et de vestes en cuir râpé qui sentent la friperie. Que la paix soit avec vous. L'élève qui prononce cette salutation en arrivant, M. Mulhid le reprend. Dans mon territoire, on dit que ta matinée soit agréable ou que ta soirée soit douce. À la grille que nous traçons au crayon, M. Mulhid nous invite à esquisser le portrait d'un camarade. Folâtre, je jette mon dévolu sur la tronche du plus buté, un disciple du clan du petit lutin. Mon élu pousse la cesse si loin qu'il refuse de serrer la main d'une fille et même de lui adresser la parole. Mon projet relève plus de la caricature que du portrait. J'ai l'intention de lui coller une barbe bleue et un chèche sur la tête. Chiche ! L'élu de mes caprices artistiques riposte et s'aventure sur le terrain du prêche moralisateur. La représentation du corps est interdite par la religion, de surcroît dans un contexte mixte. Monsieur Mulhid n'est plus qu'un monstre aux yeux globuleux. Sa mâchoire a la forme rigide et acharnée d'un piège à dents. Il renverse les tables, l'attirail de l'artiste vole par les fenêtres. Bruit de soudure et de verre qui casse, Monsieur Mulhid frappe du poing le tableau puis s'esquive. Il s'en va sans son cartable sous le bras, ne reste qu'un trou béant dans le tableau noir et l'odeur tranchante du White Spirit. Je suis fascinée par Monsieur Mulhid, fascinée par la splendide anatomie des éphèbes et des odalisques qu'il représente sur l'étoile. Par ses colères et ses longs silences, je me méfie des mots clinquants au parfum criard, les mots exubérants, lavés et essorés, maquillés à outrance. J'ai toujours été séduite par le silence. Le silence est la langue des rêves. La vérité est silence ou elle n'est pas. Le mensonge, lui, est l'œuvre des mots. Le silence est taillé dans le brut, dans le vrai, là où les mots jouent des coudes, étouffent et s'installent, le silence amplifie. Généreux, il cède la place.
Alors, elle est très étonnante cette phrase, Leila Bassaïn. Le mensonge est l'œuvre des mots.
Oui.
C'est aussi ce que pense la romancière que vous êtes ?
En toute sincérité, oui. Pour qu'il y ait mensonge, il faut qu'il y ait des mots.
Et vous qui utilisez les mots comme matière première, oui. Ça veut dire que votre travail d'écrivain, c'est un travail de mensonge ?
Ça serait le mentir vrai d'Aragon, mais à la limite... En réalité, il y a un autre passage où elle dit que le mot écrit n'a rien à voir avec le mot que l'on dit. Pour moi, le mot écrit est supérieur. Voilà.
Parce que l'héroïne va découvrir un peu plus loin que la lecture et le théâtre vont la faire voler dans le ciel. Hein. Je crois que c'est l'expression que vous utilisez. Ça veut dire que le rêve, ça veut dire que la liberté, on peut... les trouver dans les livres, dans la lecture.
C'est ça. Elle dit que il n'y a de vérité que dans l'écrit.
Et donc dans les mots.
Dans les mots. Mais qui sont écrits, qui sont supérieurs aux mots que l'on jette comme ça en pâture d'après ce personnage et qui sont comme ça volatiles et qu'on peut dire. Mais quand on les écrit, on les imprime, on les inscrit comme ça dans une sorte de futur qui va arriver.
Et les mots qui sont les vôtres, ils sont très très sensuels, très poétiques, métissés hein, aussi, puisque il y a des mots de français, d'arabe, il y a quelques mots d'anglais hein,
oui.
Aussi, parce que c'est une jeune fille très ouverte sur la culture du monde, sur la mondialisation, comme
Absolument.
On dit aujourd'hui. Et c'est peut-être un peu ça aussi le grand charme finalement de votre livre, c'est qu'on est en permanence entre deux mondes, qu'on est en permanence entre la fable et le conte d'un côté, entre le rêve et la poésie, et puis dans le concret, dans le réel, dans la vie quotidienne, il y a une foule d'objets que l'on croise dans vos pages, il y a une foule de marques aussi, c'est quelque chose de très très important. Comment est-ce que vous avez dosé justement le rêve et la poésie d'un côté, et puis cette plongée très concrète, très physique dans la réalité, dans le réel?
En fait, je pense que ça s'est fait naturellement, parce que je pense que ça me ressemble. J'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup aussi observer notre époque. Voilà, la présence de toutes les marques, ce consumérisme que l'on retrouve partout, parce que ça traverse tout le roman, que l'on soit au Maroc ou en France, on retrouve finalement les mêmes marques. Elles parlent des supermarchés, elle parle des agences bancaires.
De tels produits d'une boîte de fromage, par exemple, on va pas citer la marque ici, oui. Mais enfin une marque de fromage connue dans le monde entier, et dont j'ai appris que c'était que ça coûtait plus cher de l'acheter au détail que qu'en gros. Quoi. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire.
Tout à fait.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Leila Bassaïn qui publie « Le ciel sous nos pas » chez Albin Michel. Alors le titre est lui-même très poétique, très mystérieux, très beau. Je laisse le lecteur découvrir pour quelle raison vous l'avez nommé ainsi, votre roman. Et pourtant, moi je pensais que vous auriez pu choisir un autre titre, un titre plus court, un titre en trois mots, un titre qui claque. Tout se paye.
Ça aurait pu être le cas.
Ah oui, parce que c'est un leitmotiv qui revient dans tous ces chapitres. Oui. Tout se paye.
Ça aurait pu être le cas. Mais ça aurait occulté cette dimension poétique qui est...
Mais pourquoi justement les mettre dans chacun des chapitres comme un leitmotiv ? Tout se perd, tout se paye plus exactement, oui. Tout se paye. C'est vraiment présent, mais oui, dans chaque chapitre. Hein. C'est un petit jeu que vous êtes instauré avec vous-même ? C'est une formule qui est revenue comme ça systématiquement ?
Oui, parce que mon personnage l'a compris dès le début. Et au fait, elle le dit dès le début qu'elle appartient à la génération pour qui tout s'achète au supermarché et tout se paye. C'est la génération issue de la mondialisation. En réalité, les frontières aujourd'hui ont vraiment été gommées au sens culturel, social, habitude de consommation. Tout cela n'existe plus. C'est très universel, son mode de vie. Quand on y regarde de près, qu'il soit au Maroc ou en France, il est presque. Enfin, elle retrouve les mêmes objets, les mêmes façons de s'habiller. Voilà, tout ça est devenu universel. Et au même moment, bizarrement, les clivages géopolitiques n'ont jamais été aussi importants.
Mais quand
c'est
on dit,
paradoxal.
Mais tout se paye, c'est une formule qui résume la vie du personnage ou qui résume sa vision de la vie et donc aussi un regard. Morale sur la façon dont fonctionne ou ne fonctionne pas le monde.
Elle résume sa vision du monde, dans un monde où tout est appréhendé à travers justement cette vision tout à fait marchande.
Alors quand elle va en France d'ailleurs à l'université, parce qu'elle va bénéficier, comme on dit, des règles du regroupement familial dans la dernière partie du roman, oui. Elle va d'ailleurs faire des études de marketing et de publicité. Alors elle va vivre dans un F3 en banlieue parisienne. Elle va rejoindre sa sœur Tifa et son nouveau mari, qu'elle a surnommé Barberousse. Qui est déjà un nom très romanesque, pour le coup, un surnom très romanesque pour un personnage qui fait un petit peu peur, parce qu'elle va quand même, à son arrivée en France, de désillusion en désillusion.
C'est bien ça, ouais. Elle va de désillusion en désillusion, parce que on est loin de l'image de carte postale quand elle arrive en France. C'est tout de suite le choc, parce que dès que, vraiment, au tout début, quand elle arrive en Europe, quand elle fait la traversée de la Méditerranée, qu'elle atterrit en Europe, elle sent tout de suite une certaine suspicion, une certaine méfiance à l'égard de l'étranger qui arrive en Europe. Et puis, quand elle arrive à Paris, elle arrive quand même dans cette cité qui est très loin des images que véhicule la télévision, enfin de la Tour Eiffel ou des beaux monuments historiques parisiens.
Et puis il y a les gens aussi, hein, donc il y a les gens qui sont parfois un peu lourds avec elle dans la rue. Il y a beaucoup de préjugés. Il y a une scène très très drôle où elle est accompagnée de sa voisine. Elle va pour remplir les formalités pour sa carte de séjour, oui. Voilà. Et là il se passe quelque chose d'extraordinaire.
C'est vrai que c'est une scène en tout cas, que j'ai beaucoup aimé apprécier écrire. Effectivement, et dans la vraie vie, ça se passe comme ça aussi. Hein. Quand on arrive de l'étranger, ce n'est pas simple. Il y a une... Enfin, l'administration, en tout cas, vous convoque. Il faut se justifier en permanence. Que ce soit auprès de l'administration ou auprès des citoyens.
Donc c'est pas facile pour elle de vivre au Maroc, c'est pas facile non plus pour elle de vivre en France. Qu'est-ce qui est mieux, Leila Bassaïn, pour votre personnage et pour une jeune fille de son âge, d'origine marocaine? Qu'est-ce qui est mieux, c'est d'être au Maroc, dans la ville de votre roman, ou d'être dans la cité de banlieue parisienne qu'on rencontre dans la dernière partie du livre?
En réalité, les difficultés qu'elle rencontre au Maroc dans la première partie, elle les retrouve sous une autre forme quand elle arrive en France. Voilà. C'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose à sa façon de vivre, à ses libertés ou aux difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien. À partir de là, elle comprend que sa vraie liberté, c'est une liberté intérieure.
Voilà. Elle n'a pas de prénom, votre héroïne, j'ai dit tout à l'heure, mais moi, pendant tout le livre, j'ai eu envie de l'appeler Leïla. Est-ce que j'ai eu raison ?
Pas du tout.
Pas du tout. Parce que bon, elle aime les livres, elle y a un combat contre l'analphabétisme qui la préoccupe, elle a travaillé dans la publicité, ça fait quelques points communs avec vous quand même, Leïla Bassaïd.
Ça fait quelques points en commun parce que j'aime parler en connaissance de cause. Je ne peux pas parler de sujets qui ne m'habitent pas au sens réel du terme, mais mon parcours de vie a été différent du sien. En tout cas, moi j'ai un père, j'ai un frère, ma vie est différente et plus aisée à bien des égards que la sienne. Mais le contexte, je le maîtrise.
Merci beaucoup Leïla Bassaïd. Votre roman Le ciel sous nos pas est paru, je le rappelle, aux éditions Albin Michel.
Vous m'en direz des nouvelles.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI.
RFI.
RFI.
RFI, la radio du monde.
Oui, appel à partenariat chaque année en février à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Les Canadiens sont conviés à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Si cela vous intéresse à participer à notre émission en tant que partenaire, invité, envoyez-nous un message immédiatement à popourri@cut.fm. Puis au mois de mars, les francophones des Amériques et du monde entier ont à l'honneur la langue française. Tout au long du mois de mars 2019, si vous souhaitez participer à notre émission ou vous monter un projet en partenariat avec notre radio, vous nous envoyez un message avant le 15 février à popourri@cut.fm. Et une invitation spéciale à un auditeur et une auditrice de notre show pour une conférence exceptionnelle. Je suis canadien d'origine japonaise, réflexion sur un monde déchiré. Josh Bassechès, directeur général du Musée royal de l'Ontario, vous convie à une soirée spéciale et à la visite d'une nouvelle installation d'œuvres contemporaines. Je suis canadien d'origine japonaise, réflexion sur un monde déchiré. On vous invite à découvrir le flûtiste canadien d'ascendance japonaise Ron Korb, mis en nomination pour un prix Grammy, et Terry Watada, célèbre auteur et dramaturge canado-japonais, lors de cette soirée alliant paroles et musique. Des œuvres disséminées dans la galerie Sigmund Samuel du Canada proposent des regards personnels sur l'exil, la dépossession et l'internement des Canadiens et Canadiennes d'origine japonaise dans les années 1940. Jeudi 31 janvier 2019, au Musée royal de l'Ontario, 100 Queen's Park, entrée du Crystal Michael Lichin, ouverture des portes à 18h30, prestation à 19h, rafraîchissement et visite guidée de l'exposition par la suite. Si cela vous intéresse, vous nous envoyez un message d'intérêt à potpourri@cut.fm ou téléphonez-nous au 86 946 7000. Une invitation spéciale à un auditeur ou une auditrice de Potpourri Show pour une conférence exceptionnelle. Je suis canadien d'origine japonaise, réflexion sur un monde déchiré, prévu pour le jeudi 31 janvier 2019 à 18h30.
Je suis peut-être pas faite pour vivre à 1000, mais je sais pas parce que je suis pas encore là. Parce que moi, le monde, je les trouve débiles. Mais quand t'es quatre sommes après toi et que c'est à ton tour de traverser, moi, je m'en fous du code civil. T'es soumis, t'as s'adapté quand tu l'as jamais respecté. C'est peut-être juste moi qui est pas habile avec la ville. Difficile de faire le changement, de partir en appartement. La vie dans le bois, c'est le confort. Je veux rester proche de la bergerie. Quand je t'ai dit cul, le cœur battant, je vois dehors mon passé le temps. Du gun pour m'amuser, puis je m'étais dit qu'à jamais né. Au harpon dans la rivière, ou tirer de lave dans une chaudière. Penser l'été à faire du bois, faut chauffer le poêle pendant l'hiver. La nuit tombée tout nu dans le lac, il fallait pas voir de lumière. Tout d'un coup, ça joue contre nous autres et qu'on voit les poils de ma mère. Je suis peut-être pas faite pour vivre en ville, mais je sais pas parce que je suis pas encore là. Parce que moi, le monde, je l'ai trop.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Le journal, c'est avec Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et à la une, Félix Tshisekedi, président de RDC Victoire, confirmé cette nuit officiellement par la Cour constitutionnelle, resté sourd donc aux appels de l'Union africaine qui lui demandait de suspendre l'officialisation des résultats. Martin Fayoulou appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître un pouvoir illégitime. Aussitôt avancé, aussitôt rejeté, Donald Trump propose d'offrir un statut temporaire à des migrants en échange du financement de son mur et mettre fin ainsi au shutdown. L'opposition démocrate dit non. Dans l'actualité aussi, le bilan de l'explosion d'un oléoduc qui s'alourdit au Mexique, au moins 73 morts. Un nouveau samedi de manifestations en Hongrie, en Serbie et bien sûr aussi en France. Acte 10 des Gilets jaunes et un regain de mobilisation confirmé. 84 000 personnes dans les rues hier, autant que la semaine passée.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Haïti, mon pays, ma patrie, on peut vite parler dans nos chéris. Tout samedi, yo sorti dans un caillou, tout loyau.
Silly.
Nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir Paul Beaubrun qui participe à Pop Jazz, le festival international de jazz d'Haïti qui dure jusqu'au 26 janvier. En direct de Pop Jazz, Port-au-Prince, Paul Beaubrun. Mesdames, Messieurs, voilà un petit détour dans le pays ensoleillé d'Haïti et merci à Obed Alami, notre correspondant, qui était avec nous en direct d'Haïti. Mais le buzz de la semaine, cette semaine, order, order! Qui est ce monsieur John Berko, speaker, président tonitruant de la Chambre des communes en Angleterre? Qui est-il?
Order!
Mr. Jacob Order!
You are overexcitable and you need to contain yourself. It requires you to take some medicament, then so be it.
Order, the Honourable Chair, order!
This kiss a ginger activity is probably perfectly lawful, but I've got no plans to partake of it myself.
Order! No, you're not moving anything. Resume your seat, young man.
Et oui, c'est imposé en arbitre du Brexit. Ça va mal pour Theresa May. Le Brexit qui divise toujours les Anglais. John Berko, je l'adore.
Get out! We'll manage without you.
Get a grip of yourself, man.
Calm. Take up yoga, you'll find it beneficial, man.
I most certainly don't look for favourites, but...
Order!
Mr. Kinnock, you are a cerebral denizen of the house. Gesticulation and shouting are way beneath your pay grade, man. Don't require any assistance from some junior minister.
Absurd propositions. Order! 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 You're a very jocular fellow, but you're a little overexcited.
Et oui, le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, MOFIF, passe la vitesse supérieure en présentant son premier livre blanc à la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. D'ailleurs, plusieurs membres du gouvernement de l'Ontario sont à l'écoute en ce moment, je les salue cordialement. Ce livre blanc illustre les conclusions de la consultation de MOFIF. Mais est-ce que tout le monde a été consulté? On a reçu beaucoup de questions. Feyza, Madame Démé, qui sera des nôtres, je pense, oui. Feyza ou Madame Démé? Je sais pas. Vers 12h30, hommage à Daniel Philippe, artiste mauricien, bien connu à La Réunion, l'île de La Réunion, décédé vendredi soir à l'île Maurice. Il était de passage en vacances. 40 ans qu'il habitait à l'île de la Réunion. Il tournait sur les scènes locales et animait des baptêmes, autres événements familiaux. Il était d'ailleurs réputé pour être un ambianceur de soirées très apprécié sur l'île de la Réunion. Son répertoire ne s'arrêtait pas au Sega. L'artiste faisait aussi des reprises de grands classiques de la variété française, connu pour sa jovialité et sa dextérité à la guitare. Daniel Phillips laisse un vide dans le milieu musical de l'île. Mauricien d'origine, le chanteur de Sega avait élu domicile depuis plusieurs années à l'île de la Réunion. Daniel Phillips, artiste mauricien, a été victime d'une crise cardiaque vendredi dernier vers 23h alors qu'il était en séjour à l'île Maurice, son île natale, connue, appréciée sur l'île de la Réunion mais aussi l'île Maurice, tant dans l'océan Indien avec ses chansons comme notamment « Enfants de l'océan Indien » comme nous venons d'entendre et le « Zanzordi », le « Tanzordi ». C'est des événements festifs que pour sa personnalité, c'est un coup de massue pour nombre de Réunionnais. Huguette Bello, militante, ancienne mairesse, femme, figure engagée, incontournable de la vie politique réunionnaise, écrit sur sa page Facebook. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition soudaine de Daniel Phillips. Nous perdons un artiste et un ami que nous apprécions beaucoup. Le PLR adresse ses plus sincères condoléances à sa famille. Soyez assurés de toute notre amitié et notre soutien.
Samedi m'a vini, au fison, rempli d'amopos. On bien sous les mauvais vision, Célia, tu vois la peau. Bon, qui est Célia? Célia, Célia n'a pas dit là. Ah bon, Ali Wawa la bas, Célia, t'as fait rouler comme marin. Samedi, Movini, Bofison, rempli d'amour pose. On bien sous les mauvais vision, Célia, tu vois la peau. Bon, qui est Célia?
Célia,
Célia, petite femme l'assassin. Tu peux amener Lorraine avec toi pour te faire la vie bacana.
Quand on m'a signé, on fait rôde la vie en marin. Il y a trois quarts à midi, t'en saoulé, la peine à vie en entrée.
Vision, Célia, tu vois la peau. Bon, qui est Célia? Célia, petite femme l'assassin.
Yo te amène Lorraine avec toi pour tout faire la vie bacanal. Samedi me vini au fison rempli d'amour pose. Mon bien saoulé m'a fait vision, Célia, tu vends la peau. Bon, qui est Célia?
Célia,
Célia,
Célia.
Tu goûtais me pleurer. Mon maman, tu bien tiens moi. Célia n'a pas tissé pour marier.
Quand on m'a signé, mon père rôde, la vie en marin. Il y en a trois quarts, ça nous dit un saoulé. La peine à vis en nom.
Les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre. Que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Après un 9e samedi de mobilisation, les Gilets jaunes sont appelés à partir de ce mardi à participer au grand débat national. L'initiative du gouvernement français est une première dans l'histoire de la Ve République. Mais en région, certains maires ont anticipé en organisant des réunions locales de doléances. Alors ce grand débat venu de Paris, certains n'y croient pas.
Il y a une différence qui est toute simple. C'est que le cahier de doléances, il vient de la base. Et que le grand débat national, il est organisé par le gouvernement. Il va nous tomber avec des questions auxquelles il faudra répondre. Comme si on avec était en maternelle, avec une dictée. Je vous donne une dictée. Qu'est-ce que vous pensez des gilets? Qu'est-ce que vous pensez de la météo? Mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce gouvernement prenne en compte ce qu'on fait remonter.
D'autres Français, au contraire, apprécient qu'on leur donne enfin la parole.
On a tous intérêt à participer. Qu'on soit, il y a un moment, si c'est un débat public, tout le monde doit prendre part. Parce que sinon, c'est le risque de voir des idées qu'on ne partage peut-être pas être mises sur la table.
Le débat, il est important pour tout le monde. Hein. Il faudrait que les choses changent et il faudrait qu'on soit très posé pour pouvoir discuter et non voir ce qui se passe à l'heure actuelle. La force, la brutalité n'arrangera pas la situation.
Je pense qu'il manque un vrai dialogue qui aurait dû s'instaurer depuis beaucoup plus tôt. Et en fait, chacun va camper sur ses positions, il n'y a pas de dialogue. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de dialogue, rien ne peut sortir de tout ça de façon positive.
Une lettre d'Emmanuel Macron doit être publiée ce lundi et devrait donner le ton. Le grand débat, dont les modalités pratiques vont être annoncées dans la journée, et doit aborder quatre grands sujets. Pouvoir d'achat, fiscalité, démocratie et environnement.
Et oui, la semaine prochaine, justement, nous aurons un représentant conseiller consulaire du gouvernement français dans la région de Toronto qui représente l'Ontario et le Manitoba, Monsieur Marc Cormier, qui nous livrera sa petite chronique, nouvelle collaboration de 3 minutes, 4 minutes sur les élections européennes. Pourquoi faut-il aller voter? Encore une fois, chers Français, Françaises. Quel rôle le FESPACO a-t-il joué dans le concert des plus grands festivals de cinéma au monde, à côté de Toronto ou de Cannes? Les festivaliers viendront en sécurité et repartiront en sécurité, nous assure l'organisation. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, fêtera, je vous rappelle, cette année du 23 au février au 2 mars son cinquantenaire. Il faut le faire, 50 ans. Dans une situation sécuritaire tendue, comme on le sait, Ah oui, Bamako. Le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme a reçu RFI pour expliquer le rôle et la place du plus grand festival du continent africain. Et nous aurons justement l'occasion de vous transmettre en direct le déroulement du festival grâce à Radio France Internationale. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans notre région, en Ontario, surtout côté artiste, entre autres un anniversaire qu'il faut marquer absolument. L'école élémentaire La Mosaïque fête cette année ses 10 ans et le conseil des parents vous invite à célébrer le succès de cette école lors d'un spectacle à bénéfice le 24 janvier. C'est cette semaine hein, qui s'en vient à 19h. Nathalie Nadon des Chiclets, Amélie Lefebvre de Amélie et les Singes Bleus et Fred Boutin vous conviennent à une soirée cabaret jazz décontractée au Eaton Tavern, 710 rue Danforth à Toronto, centre-ville pas très loin, quartier grec, hein, Danforth, quartier grec, Greek, oui. Alors, on souhaite vous voir en grand nombre et les parents de l'école sont très généreux et très impliqués dans les activités de leurs enfants, nous dit la présidente, Madame Miller-Guillot, qui nous envoyait ce message. Si vous êtes là, ben, téléphonez-nous. Et oui, donc, le 24 janvier à 19h, Eaton House, 710 rue Danforth, avec Nathalie Nadon, les Singes Bleus et Fred Boutin, à ne pas rater un spectacle à bénéfice. Cabaret jazz décontracté le 24 janvier pour célébrer un anniversaire spécial 10 ans de l'école élémentaire La Mosaïque à Toronto. Victoire de la musique 2019. Les nominés sont, je vous laisse découvrir, Eddie de Preto, une chanson qui a eu beaucoup de succès en 2018. Voici un extrait.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dedans, comme, comme, je crois en tout ce qui cogne, comme, comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dedans, comme, comme, chaque fois que je tombe croque là, love, love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens.
Et oui, après la publication d'une liste d'artistes après nommé qu'un jury de professionnels a pour mission de départager, les nominés sont dévoilés au début du mois de janvier. On l'a fait la semaine dernière d'ailleurs. Et cette année, Eddie de Preto, que nous entendons en ce moment, est nominé pour meilleur album de l'année. Et Aurel San font la course en tête avec 3 nominations chacun. Et oui, et ils sont suivis par Angèle, Big Flo et Oli que nous allons entendre dans un instant. À ne pas rater, cela vous intéresse, la cérémonie 2019 des Victoires de la Musique se déroulera le 8 février et sera, comme toujours, diffusée en direct sur France 2. Et oui, si cela vous intéresse, venez avec nous, nous serons à Paris. Et oui, et quoi d'autre? L'association des professionnels de la chanson et de la musique d'Ontario vous invite à célébrer la semaine Tri-Or qui aura lieu du 29 avril au 2 mai prochain. Une semaine riche en activités qui attend des artistes, des professionnels de l'industrie ainsi que le grand public. Au programme, vitrine musicale, des panels, des laboratoires de travail, des cocktails, de réseautage, la soirée industrie, le gala Tri-Or et plus encore, du 15 janvier au 28 février, vous pouvez voter en ligne pour la chanson primée du Tri-Or 2019. Écoutez les chansons et votez en ligne. Moi, je l'ai fait. Allez sur www.apcm.ca/Tri-Or. association des professionnels de la chanson et de la musique, vous invite à célébrer la chanson francophone et la semaine Trior qui aura lieu du 29 avril au 2 mai prochain. Nous entendons, monsieur, si on a le temps, Big Flo et Oli, nominés Victoire de la musique 2019. Voici un extrait, La vie de rêve.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard, et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé?
Ah, que j'aime bien Big Flo et Oli, madame, monsieur, nominé. Victoire de la musique 2019, à ne pas rater, cela vous intéresse, il y en a d'autres, hein. Il y a Aurel San, je viens de l'annoncer, Angèle, Jeanne, Haddad, Christine et Queens, tous dotés de deux nominations, mais la plupart des artistes qui ont marqué l'année y figurent dans l'une ou l'autre des catégories, y compris Damso, Jane et même Aya Nakamura. Cérémonie 2019 des victoires de la musique. Le 8 février prochain, en direct sur France 2. Et ne pas rater la semaine prochaine, madame, monsieur, en toute exclusivité. Nous aurons le plaisir d'accueillir les finalistes au plus grand show musical de la planète, avec 200 millions, 300 millions, peut-être même plus, me dit-on, Eurovision 2019, la semaine prochaine. Toute une émission. Et nous recevrons aussi notre ami collaborateur Marc Cormier, conseiller consulaire, qui nous dressera un tableau sur les élections européennes. Pourquoi faut-il voter aux élections européennes?
Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard, et je comprends pas.
Chaque dimanche, découvrez les enjeux, l'histoire et les influences de la francophonie grâce au magazine de Radio France Internationale et votre radio CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 Toronto.
Et oui, du 19 au 26 février 2019, Popourri Show, en partenariat avec son correspondant Obed Lamy à Port-au-Prince, est fier de vous présenter la 13e édition du Pop Jazz, le festival le plus jazzy de Port-au-Prince. Cette année, plus de 350 millions d'auditeurs au rendez-vous grâce au groupe Radio France qui assure la promotion et le rayonnement international de l'événement. Du 19 au 26 janvier 2019, les yeux du monde seront braqués sur Haïti, pays trop souvent catapulté dans les médias quand on parle de sida, du choléra, du séisme ou d'émeutes politiques. Le festival Pop Jazz, 13 années au compteur, est devenu l'un des incontournables rendez-vous musicaux qui désire projeter une autre image d'Haïti. Cette année, Pop Jazz présente plusieurs activités culturelles touristiques en harmonie avec l'écologie. Pop Jazz 2019, à la découverte des artistes des États-Unis, du Canada, du Québec, de la France, des Antilles, de la Belgique, du Mexique, du Chili, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Suisse et de sa diaspora haïtienne. Ce festival de jazz est organisé par la Fondation Haïti Jazz avec le soutien des ministères de la Culture et du Tourisme d'Haïti ainsi que l'aide, le partenariat des principales ambassades présentées à Haïti et d'institutions privées et publiques. Pap Jazz, c'est la musique, le jazz, des rencontres et le rhum. Le Festival international Pap Jazz, un vibrant, exaltant moment pour célébrer Haïti. Alors, on y va?
L'Afrique, Afrique, Afrique, Afrique. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique est un continent riche matériel, touristique, panoramique. Très bien. Mais malgré son immense richesse, nos pays sont victimes du sous-développé, des endettés. Vers l'Occident, nous passons notre temps à faire des emprunts financiers pour soi-disant venir faire des investisseurs. Mais une fois que cet argent arrive dans nos pays, il est utilisé individuellement au lieu d'être utilisé collectivement. Musique!
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Mais non, mais vous avez tellement de possibilités, les filles, maintenant, pour rester belles. Mais c'est vrai, vous avez énormément de possibilités, hein? Je vois petit à petit les femmes prennent le pouvoir en France, mais dans le monde aussi. Tu regardes en Angleterre, qui c'est qui commande? La reine d'Angleterre, hein? L'autre avec ses grandes oreilles, il n'aura jamais le trône, là. Hein, la reine d'Angleterre va battre la mère Suzanne en record de longévité, mon petit bonhomme. Hein, tu regardes, en Allemagne, depuis que c'est Angela Merguez qui commande, le pays s'est jamais si bien porté. Hein? Et petit à petit, les bonnes femmes sont en train de prendre le pouvoir, les gars. Mais oui, parce que les filles, vous êtes de plus en plus belles. Nous, on est bêtes, nous, les bonhommes. Dès qu'on voit une femme, les bonhommes... Et les gars s'installent, les filles, et puis c'est normal, hein? Regarde, nous, on perd nos cheveux, on prend de la bedaine, on a tout le temps une patte qui va de guingois, il y a toujours quelque chose qui va pas. Alors que les femmes, mon vieux, mais les femmes, faut voir la patate que vous avez une santé incroyable, hein, vous faites le ménage, la
Baby.
Pot Pourri Chaud vous mène jusqu'au bout du monde. Des milliers de manifestants, manifestantes, participaient à une marche organisée par l'Alliance de la Marche des Femmes à New York, mais aussi un peu partout aux États-Unis et même à Toronto. Et cette année, la troisième édition de la Marche des Femmes est marquée par des divisions au sein du mouvement sur fond d'accusations antisémitisme, malheureusement. Le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF, passe à la vitesse supérieure, nous dit-on, en présentant son premier livre blanc. Quelle est la différence entre le livre blanc et le livre rouge? C'est la question qu'il faudra poser à notre invité, nous dit un auditeur. Et oui, premier livre blanc qui illustre les conclusions de sa consultation provinciale à Toronto. Ils ont même rencontré la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Madame Caroline Mulroney. Et oui, cette consultation a eu lieu un peu partout en province et il y a eu une grande participation civique, citoyenne des femmes immigrantes francophones de l'Ontario. Premier livre blanc, une première pour l'organisme qui s'arrime parfaitement avec la mission du MOFIF qui donne une voix aux femmes et aux jeunes filles pour se faire entendre, pour s'exprimer et pour partager leur défis et leurs désirs. Quels sont les enjeux? Quelle est la réalité et les enjeux entourant l'intersectionnalité dans le MOFIF? On en parlera dans un instant avec une des représentantes, je pense c'est Madame Dienaba Démé, elle est trésorière du MOFIF, dans un instant. Eh oui, bonjour Madame Démé, comment allez-vous?
Je vais bien, merci, et vous?
Oui, malheureusement, nous avons une très mauvaise communication. Je ne pense pas que nous pourrions continuer l'entretien comme ça. J'entends du bruit en ligne. Okay. Alors, merci. Essayez d'être dans un endroit plus calme si possible. Okay. Je sais que vous n'êtes pas sur la route. Faites attention à vous. Alors, nos recherchistes avaient préparé des questions en coordonnance avec Madame Faiza Abdelawi. Malheureusement, elle n'est pas des nôtres aujourd'hui. Mais parlez-nous un petit peu de votre rencontre avec Madame Mulroney cette semaine. Quelle a été sa réaction face à votre livre blanc?
Elle a été très à l'écoute des solutions qui ont été traitées dans ce livre blanc. Alors, nous lui avons résumé les faits et on lui a donné un condensé des consultations provinciales que nous avons eues à faire à Welland, à Milton et à Toronto, avec beaucoup de femmes immigrantes francophones impliquées. Et on a eu à collaborer ensemble, histoire de mettre en œuvre des solutions afin de mieux favoriser la participation citoyenne et civique des femmes. Donc, la ministre a été très à l'écoute.
Oui. Vous savez que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a un rapport. C'était pas nommé un livre blanc, mais je me souviens dans une autre vie antérieure, le CALAC, c'est un centre qui s'occupe des femmes victimes de violences conjugales dans la région d'Ottawa, avait publié justement un rapport sur des recommandations concernant les femmes immigrantes de la province de l'Ontario. Et ça, c'était en 2009, je pense, 2010. Mais est-ce que il y a eu de la recherche pour savoir qu'est-ce qui a motivé ou poussé le MOFIF à créer ce livre blanc et à mener des consultations à travers la province de l'Ontario auprès des femmes?
Alors, tout d'abord, un livre blanc, il faut savoir c'est quoi le contexte derrière. Un livre blanc, c'est un outil de communication qui se positionne comme étant un guide pratique pour son lecteur. Donc, un livre blanc, ça répond à une problématique prédéfinie et qui va aider le lecteur à opter pour une solution ou éventuellement à prendre une décision. Donc, nous, dans le cadre de notre travail, dans le cadre des actions journalières que nous avons avec toutes les femmes immigrantes francophones, nous avons ressenti ce besoin d'engagement civique et citoyen des femmes immigrantes francophones. Et nous avons décidé de faire des consultations provinciales en Ontario, dans les villes de Hamilton, de Toronto et de Welland, avec plusieurs femmes dans le mouvement impliqué, et afin de pouvoir favoriser cet engagement civique. Pour ce faire, il fallait rédiger un document. Nous avons choisi un livre blanc qui était très pertinent dans ce contexte-là, puisque c'est un outil de communication.
Alors, à préciser que toutes les femmes, parce que là, je vois des gens qui pensent, quand on parle des femmes immigrantes ou des immigrants en général dans la communauté francophone, tout de suite, on parle des réfugiés, on pense à des demandeurs d'asile. C'est l'image projetée malheureusement par certains médias et personnes ou groupes anti-immigration. D'ailleurs, on voit la montée des groupes d'extrême droite au Québec et un peu partout au Canada qui alimentent les campagnes de désinformation pour forcer le gouvernement fédéral à changer ses politiques sur l'immigration. D'où viennent les femmes immigrantes que vous avez rencontrées? Quel est le profil de ces femmes immigrantes de l'Ontario que vous avez rencontrées?
Alors, vraiment des profils variés. On a eu à rencontrer des femmes entrepreneurs qui avaient leur propre entreprise. Nous avons rencontré des femmes salariées, des femmes qui étaient actuellement de retour aux études, des femmes qui sont en prospection d'emploi. Il y avait vraiment tout un portfolio de profils. C'était des profils divers. Ouais. Afin d'avoir une représentation uniforme et qui allait répondre aux besoins provinciaux.
Alors, j'ai devant moi un rapport qui dit les femmes immigrantes francophones proviennent en majorité des pays de l'Afrique francophone avec 35,4%,
exactement,
de l'Europe avec 25,8% et 21,4% en provenance de l'Asie. Une autre donnée caractéristique de la diversité de la population francophone immigrante est le pourcentage de femmes francophones qui proviennent de l'Amérique latine, qui est à 17,3%. C'est intéressant. Quelles sont les barrières persistantes, d'après vous, ou des barrières inattendues face à ces femmes quand elles arrivent en Ontario?
Alors, comme nous l'avions abordé la dernière fois, si vous vous souvenez de notre appel téléphonique, les barrières sont les mêmes, elles sont systématiques. Ce sont des barrières liées à quoi? Des barrières liées à la langue, précisément parce qu'en Ontario, l'anglais est fortement majoritaire. Donc, il va y avoir une barrière linguistique et surtout, on va jamais le répéter assez, une barrière liée à l'expérience professionnelle, donc à la reconnaissance des diplômes. Malheureusement, beaucoup de femmes immigrent à travers l'immigration choisie ou bien à travers le parrainage pour rejoindre leurs conjoints. Et dès qu'elles arrivent, elles se heurtent à des barrières liées aux recherches d'emploi. Elles voient que leur expérience préalable n'est pas reconnue ici en Ontario, je vais même dire au Canada, dans l'ensemble. Donc, c'est présentement cette barrière-là qui est plus obstacle aux femmes.
Il faut dire que quand même, il y a une femme dans la région de London, une première d'ailleurs en provenance d'Afrique, qui a été élue conseillère municipale, je pense. Hein?
Il me semble, oui, je pense.
Ah, oui.
Kabayega,
je dois revoir le nom, je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, c'est une première et une ville très anglophone d'ailleurs. Alors, ces femmes immigrantes, il y a aussi, j'ai entendu parler dans le passé, qu'ils n'ont pas assez d'indépendance financière, surtout les femmes qui veulent se lancer en affaires. Est-ce que vous avez fait du lobbying auprès de Madame la ministre des Affaires francophones, Madame Mulroney, pour voir, parce qu'on sait qu'actuellement il y a des coupures partout en Ontario, et y compris on a eu des mauvaises surprises à la fin de l'année 2018. Est-ce que il va avoir des fonds disponibles pour aider, soutenir justement dans la formation des femmes, pas seulement donner de l'argent pour donner de l'argent à des femmes immigrantes, mais pour les armer, donner des armes, des outils nécessaires afin que ces femmes puissent se développer et à se lancer dans les affaires?
Oui, alors ça tombe à pic que vous abordiez cette question parce que précisément, nous avons parlé de l'indépendance financière, cette indépendance économique lorsque nous avons rencontré la ministre, parce que nous, le motif En fait, notre concept, notre idéologie, ce n'est pas d'avoir des financements pour des projets ponctuels seulement de ou faire du caraca. Nous, ce qu'on cherche, c'est un financement afin d'outiller les femmes pour qu'elles puissent atteindre une indépendance financière. Alors, mon fils donne des formations. Alors, nous, on cherche à outiller les femmes pour qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Je suis parfaitement en accord avec vous. Pas seulement donner de l'argent pour aider ponctuellement ou aider un groupe de femmes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on outille les femmes à avoir plus de formation, à avoir accès à l'éducation, parce que c'est en passant par cette éducation, justement, qu'elles vont pouvoir s'approprier leur terre d'accueil, mieux s'intégrer et enfin s'épanouir professionnellement.
Oui. Dans l'ensemble, la ministre, d'après vous, parce qu'on a eu une très belle photo hein, avec toute votre équipe et la ministre, ça a été publié partout, même c'est allé dans des pays d'Afrique, en Europe, à l'île Maurice, les gens m'ont dit « Ah, il y a des gens francophones qui parlent français !» Et en plus, ils ont pris des photos avec la ministre, mais qui est cette ministre alors? Parce que les gens sont toujours confus entre le Québec, l'Ontario, une vie francophone au Québec, une vie francophone en Ontario, alors je pense que c'est très important de promouvoir la francophonie de l'Ontario. D'ailleurs, alors je rappelle aux gens que mon invitée en ce moment est Madame Dianaba Démé. Elle est trésorière du MOFIF et elle nous présente aujourd'hui la sortie de la présentation de ce livre blanc du MOFIF qui a été présenté à la ministre des Affaires francophones, Madame Caroline Mulroney, cette semaine. Et nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres. Alors justement, parmi les thèmes et sujets abordés pour les philosophes, les enseignants, les psychologues, les professeurs qui nous écoutent en ce moment, qui cherchent des outils pour mieux cerner la population francophone. Et ici, on parle des femmes immigrantes francophones dans toute sa diversité. Vous avez quand même des thèmes et des sujets abordés dans ce livre blanc qui pourraient intéresser nos auditeurs et auditrices. Alors, vous parlez bien sûr de l'engagement civique et citoyen des femmes. Vous parlez aussi du portrait de la francophonie, de l'immigration francophone en Ontario et des femmes immigrantes francophones. Vous brossez là un vrai beau tableau et en plus vous avez des chiffres, des tableaux, il y a des dessins, c'est très facile je trouve à manier, à mieux comprendre. Et puis vous dressez aussi les nombreux enjeux des femmes du Canada, pas seulement de l'Ontario mais du Canada. Ça c'est intéressant hein, de voir comment les autres femmes de ce grand pays, ce grand continent qu'est le Canada, ont à affronter justement leur intégration sur le marché du travail mais aussi dans la société. Et vous misez beaucoup dans ce document sur la place civique, la participation civique des femmes. Vous parlez même que les femmes doivent prendre leur place au niveau des élections, par exemple, participer au niveau politique de leur province. Hein? C'est très important pour vous.
Oui, c'est très important que les femmes soient impliquées dans le processus décisionnel. Alors, ça peut être à plusieurs niveaux, à travers les conseils scolaires, au niveau provincial, au niveau fédéral. Et vous savez, quand vous avez abordé tout à l'heure le thème de l'intersectionnalité, alors il y a trois barrières qui se forment lorsqu'on parle de femmes immigrantes francophones. D'abord, femmes, parce que les femmes n'ont pas toujours eu le droit de vote. Quand on parle d'engagement civique et citoyen, bien sûr, c'est le droit de vote. Donc, et aussi, en tant qu'immigrantes, les femmes viennent de contextes politiques différents du contexte actuel du Canada. Parfois, les femmes proviennent de pays qui sont, en guerre ou des pays où ce n'est pas le suffrage universel direct ou encore peut-être qu'elles n'ont pas cette culture du vote. Et enfin, une femme immigrante francophone, et quand on dit francophone, ces femmes n'ont peut-être pas accès à l'information politique dans leur langue, donc en français. Donc, quand on parle d'intersectionnalité, je pense que c'est le fait de pas faire l'erreur de travailler en silo. Et donc, nous, au MOFIF, tous les sujets sont interliés. Ils ont un lien de causalité, d'où l'importance de correctement éduquer les femmes immigrantes francophones afin de faire passer nos messages dans les instances de décision, à l'instar des conseils scolaires, comme je l'ai mentionné plus tôt.
Oui.
Plus la femme est éduquée sur ce qui se passe au sujet d'elle, mieux elle va pouvoir s'intégrer dans sa terre d'accueil et participer aux prises de décision.
Mais moi, je trouve que c'est à la mode maintenant, hein, avec le mouvement MeToo. Regardez le nombre de femmes qui se lancent dans la course à la présidence des États-Unis pour 2020. C'est quand même incroyable. Regardez, nous avons une mairesse à Montréal qui est une femme et elle est solide. Elle fonce, elle n'a pas peur, elle n'a pas au froid aux yeux. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se sont fait élire en Ontario en 2018. Est-ce que au niveau francophonie, on pourrait un jour, peut-être, parce qu'il y a un article là qui circule un peu dans les milieux francophones en Ontario, est-ce qu'on pourrait un jour peut-être penser à un mouvement francophone qui se positionnerait sur la scène politique ontarienne, pourquoi pas, en français?
Pourquoi pas? Ce serait un rêve. Oui, pourquoi pas? Ce serait quelque chose de grandiose.
Oui.
Pourquoi pas?
Et nous allons vous faire entendre. Est-ce que vous avez participé au débat hier à la marche des femmes à Queen's Park?
Le MOFIF y a participé, oui.
Oui. Alors, je veux passer un extrait d'une femme qui est en train, en ce moment, de faire. Enfin, les gens gazouillent, on tweet. Elle a plusieurs millions de suiveurs sur son compte Twitter. Et elle est nouvellement élue à la Chambre aux États-Unis. Et nous allons entendre un extrait de ce qu'elle a dit hier. Et je vais voir avec vous si vous êtes en accord, parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est de réveiller peut-être cette communauté qui a été très passive dans le passé. C'est les hommes qui jouaient le rôle au niveau de la politique. Alexandra Ocasio-Cortez, qui faisait un discours à New York hier. On écoute un extrait.
This year we're going to keep pushing because 2020, we took, in 2018, we took the House of Representatives, and through 2020, we're going to take the White House and the Senate too. That's what we're going to do, because we need to advance and fight for an America where all people are welcome and no people are left behind.
Eh oui, c'est un message très très fort. Est-ce qu'on pourrait entendre ce même message de la part des femmes en Ontario, au Canada, ou des femmes immigrantes francophones en Ontario?
Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je trouve que c'est un message très poignant. Elle aborde le besoin impérieux des femmes d'être impliquée, comme elle le dit dans le House of Commons, au niveau fédéral et partout. Oui, je trouve ça. Je pense que
pendant très longtemps, on a sous-estimé le rôle et la force des femmes au niveau des élections. Et là, c'est une surprise, je pense, pour tout le monde. Et même l'establishment, les politiciens, les pays en général sont confrontés à voir la montée, et l'intérêt et la force des femmes à travers le monde, et surtout en Amérique du Nord.
Oui, absolument. Les femmes, maintenant, elles sont conscientes de leurs compétences. Elles sont conscientes que le monde, qu'on le veuille ou non, le monde tourne autour d'elles. Les femmes sont les premières éducatrices, parce que ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Et l'éducation passe par les enfants. Donc, les femmes sont le socle de la société et c'est très important qu'elles soient impliquées sur toutes les sphères de la société.
Oui.
Alors, ça, on ne le dira pas assez.
Oui. Alors, il faut passer à l'émission régulièrement pour répéter encore à tous les auditeurs, auditrices et ces hommes sceptiques. Il faut bien admettre aussi que, malheureusement, dans la communauté, il y a des hommes qui sont très sceptiques encore, qui sont très sexistes, qui empêchent justement des fois à donner la place qui leur revient à des femmes. Premier livre blanc du MOFIF sur la participation civique et citoyenne à des femmes immigrantes francophones de l'Ontario et une opportunité forte de revoir le statut des femmes en Ontario, mais aussi au Canada. On parle aussi de la violence faite aux femmes dans ce document. On parle des engagements des gouvernements et des institutions. On parle de la loi sur les services en français qui est clopi-clopant. Mais c'est à vous, madame, monsieur, de vous engager pour défendre les services en français et les lois existantes, n'est-ce pas, pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Et aussi une opportunité forte, le statut des membres auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, parce qu'on le sait, l'Ontario fait partie et membre observateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et à la fin, vous remerciez Sabine Soumaré, Touria Karim, qui ont travaillé sous la supervision de Faiza Abdallaoui, présidente sortante du conseil d'administration du MOFIF. Et que devient Madame Faiza Abdallaoui après la fin du mois de mars 2019? Est-ce que vous avez un scoop à nous dévoiler en ondes?
Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ouais. Faiza actuellement est très, très impliquée. Elle travaille très fort pour assurer la relève et la transition.
Vous lui souhaitez bonne chance et toutes nos salutations cordiales. Et est-ce qu'on pourra compter sur le MOFIF pour le mois de la francophonie cette année?
Oui, bien sûr. Ouais. Mon fils répond toujours à l'appel de la francophonie.
Je suis très, très, très heureux et bravo pour votre travail et merci à toute l'équipe et aussi à tous les partenaires qui ont participé à votre travail. Bravo et on se reparle très prochainement. Au revoir.
Merci de nous avoir reçus sur vos antennes.
Je remercie infiniment tous ceux et celles qui ont participé à cette émission. Obed Lamy, à Port-au-Prince, Pop Jazz Festival, Radio France Internationale, DJ Devera, TV5 Monde et Madame Diana Ba Démé et Leila Bassin et Jean-François Cadet. On se revoit la semaine prochaine pour une émission spéciale culture.